Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capucarvic.
Plusieurs ONG sont à la recherche des financements pour leurs projets. Ils veulent financer leurs projets. Cependant, les bailleurs sont de plus en plus, les bailleurs des fonds sont de plus en plus réticents. C'est là suite à la mégestion qui a caractérisé bon nombre de gestionnaires. Les ONG, ils reçoivent des fonds, mais ils les gèrent très mal et ils ne savent pas justifier, fournir les pièces justificatives. Et par ailleurs, d'autres structures présentes ont des bons projets, mais ils ne savent pas comment présenter des dossiers de demande de fonds qui répondent aux normes. Voilà, donc c'est cela, on va parler de tout cela aujourd'hui. Vous êtes responsable d'une ONG, vous avez une structure, vous êtes à la recherche de financement, si ce thème vous intéresse, appelez-nous au 081-800-9063-94 pour participer. Nous recevons à présent Alain Poutou, expert en planification stratégique et ressources humaines. Alors, monsieur Alain, la première question est de savoir quels sont les différents moyens que les ONG peuvent recourir pour obtenir le financement de leur projet.
Oui, monsieur le journaliste, il faut signaler que dans la procédure de recherche et de financement, les humanitaires et les partenaires de développement ne financent pas les individus, donc on finance les structures. Oui. Il faut d'abord que la structure qui cherche le financement soit vraiment une structure organisée. Et dans les financements, nous avons trois types de financements qu'une ONG peut bénéficier de la part d'un bailleur de fonds. Oui. Il y a d'abord l'appui technique, qui est un financement dans le cadre de la formation, les renforcements des capacités sur la gestion administrative, la gestion financière, élaboration de projets, suivi d'évaluation, c'est-à-dire un bailleur de fonds qui trouve que il y a ses partenaires d'exécution, ils ont une faiblesse, ils présentent des faiblesses par rapport à la gestion administrative. Alors, le bailleur de fonds peut prévoir, n'est-ce pas, un financement, mais ceci n'est pas d'ordre, disons, financier, on ne donne pas l'argent en espèces. Un appui technique, on leur fait un renforcement des capacités, pour leur apprendre d'abord sur comment organiser administrativement une ONGB ou une ASBL. Ça, c'est le premier financement. Et vous-même aussi, une ONGB, si vous trouvez que vous avez des lacunes au niveau de votre administration, vous pouvez demander, n'est-ce pas, un appui technique pour qu'on puisse vous renforcer en capacité. Parce qu'il faut le dire aussi que la majorité des ONGB qui sont créées ici en RDC sont des ONG qui ont des bureaux dans des mallettes. Donc, il n'y a pas vraiment une administration très fiable. Alors, il faut que les ONG, avant d'abord de demander l'argent, qu'ils commencent d'abord par solliciter un appui technique.
Et avant ça, il faut avoir des statuts. Oui,
justement.
Des statuts notariés reconnus.
Deuxième financement, c'est l'appui institutionnel. Ici, on dote des ONGB à des matériels, des équipements, outils de travail. Donc, on peut par exemple venir dans une ONG X, on vous donne les outils de travail, les ordinateurs, les tablettes, les meubles, tout ce qu'il faut. On trouve que même sur le plan des équipements, vous n'êtes pas aussi outillé, vous n'êtes pas organisé. Alors, le troisième financement, c'est ce qui intéresse tout le monde, c'est l'appui financier. Donc, on vous donne une enveloppe pour aller sur le terrain et exécuter les activités. Donc, vous faites une descente auprès des bénéficiaires avec l'argent que le bailleur de fonds vous a donné pour que vous puissiez, n'est-ce pas, aider le bailleur de fonds. À ce niveau-là, vous êtes en train de jouer le pont entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires directs du projet. On vous donne pour l'argent et vous partez, n'est-ce pas, exécuter les activités chez ces bénéficiaires-là. Mais il faut noter que pour les trois types de financement, les bailleurs de fonds, normalement, dans les logiques d'intervention, lorsque une ONGB internationale ou un bailleur de fonds arrive dans une zone d'intervention, les bailleurs de fonds élaborent un document qu'on appelle le plan de travail annuel. C'est-à-dire, c'est un chronogramme sous forme d'une prévision des activités que les bailleurs de fonds prévoient, n'est-ce pas, exécuter pendant pas plus de 4 ans. Ce plan de travail annuel, là, prend une année à 4 ans. Donc, ça ne fait pas dépasser 4 ans. Alors, dans ce plan de travail annuel, on prévoit d'abord les différents projets à financer. Donc, vous, si votre projet ne correspond pas, n'est pas dans le plan de travail annuel du bailleur de fonds, on ne peut pas vous financer parce que le bailleur a déjà prévu que pour cette année, je veux financer 12 projets. Et on donne les intitulés de chaque projet, les objectifs que le bailleur descend à temps de chaque projet, les indicateurs de performance pour celui qui va exécuter ce projet, et l'enveloppe de chaque projet, même la localisation du projet. Je donne un exemple, le bailleur descend a prévu un projet de forage en puits d'eau, par exemple, à Kasangoulou. Mais vous, vous êtes une ONG qui est basée à Boma. Donc vous voyez que la zone d'intervention, la localisation du projet ne correspond pas à votre rayon d'action. Donc déjà, automatiquement, vous êtes à côté, même si c'est un projet qui est bien élaboré.
Il ne faut pas l'introduire.
Oui. C'est ça. Donc il faut d'abord connaître le plan de travail annuel du bailleur de fonds. Qu'est-ce que le bailleur a prévu dans son PTA? Et vous verrez même au niveau du coût de projet. Il y a des gens qui rédigent des projets et ils ne connaissent pas l'enveloppe du bailleur de fonds. Par exemple, le bailleur a prévu 12 000 pour financer un tel projet. Par exemple, la campagne dans des écoles et pour la prévention du VIH/SIDA. Le bailleur de fonds prévoit par exemple les 15 000, mais vous élaborez un projet de 25 000. Voyez, déjà, vous n'êtes pas dans le
budget.
Vous devez maintenant préciser dans votre projet si les 25 000 dollars de le coût global du projet, le bailleur de fonds vous donne 15 000. Maintenant, vous devez expliquer au bailleur comment est-ce que vous allez mobiliser les 10 000 autres là qui restent pour exécuter le projet. Sinon, il ne finance pas. Donc, il faut d'abord que vous puissiez être en possession du plan de travail annuel du bailleur de fonds. C'est ce qui va vous servir de savoir, ok, voilà ce que le bailleur de fonds a prévu comme projet à financer. Et vous allez voir dans ces différents projets que le bailleur de fonds a prévu, bon, quels sont les projets que vous pouvez aller rédiger. Parce que ça, ce n'est que le titre des projets.
Monsieur Alain, il y a un problème. On a l'impression que chaque fois qu'on reçoit, par exemple, on présente les ONG dans notre rubrique ONG partenaire, on entend souvent les responsables des ONG se plaindre, on n'a pas de financement, on n'a pas de bailleurs. Est-ce que c'est le seul moyen de financer les activités, c'est des bailleurs, ou bien les ONG peuvent s'organiser aussi par des cotisations au niveau interne et avoir d'autres sources de financement?
Oui, en fait, les bailleurs, des fois, ils ont quand même une enveloppe qui peut permettre à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, exécuter le projet. Mais il faut se dire aussi que vous ne pouvez pas demander le financement chez un bailleur de fonds tant que vous n'avez pas encore réalisé vous-même les activités au préalable. Vous voyez? Et aussi, pendant l'élaboration du projet, vous savez, un bailleur de fonds qui sait bien analyser le projet, il peut écarter votre projet, il regarde d'abord la formulation du problème à risque, hein, ce qu'on appelle communément contexte et justification. Alors, l'argument de votre projet, l'argumentation, doit aussi correspondre quand on prend votre statut. Parce que quand on analyse les projets, on prend les projets qui sont élaborés, on les confronte avec le statut de l'ONG qui demande les financements. Mais on va regarder un peu pour quel but cette ONG a été créée. On voit la motivation. Quand on arrive dans les canevas du projet, il y a la partie sur l'historique de l'ONGD. On va regarder pour quel but cette ONG a été créée. Maintenant, on compare les arguments que vous avez donnés dans la création de l'ONG, la motivation. On va maintenant dans le contexte des justifications du problème à résoudre. On va voir, il faut qu'on sente que réellement les soucis que vous voulez
mettre en cohérence.
Voilà, si ça ne correspond pas, ça ne va pas. Alors, je dirais que d'abord, il faut être en possession du plan de travail annuel du bailleur de fonds. Deuxième procédure.
On y arrive, le temps d'accueillir Simon. Roméo Baloumé, qui nous appelle de Goma, vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment obtenir des financements pour vos projets? Aujourd'hui, on s'intéresse aux ONG. Simon Roméo, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour, François Di.
Quelle est votre question, Simon?
Oui, merci. Je voulais poser la question à l'invité Alain Poutoum. Je voulais d'abord lui dire bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, je voulais poser la question à Alain Poutoum de savoir que faut-il faire pour cela, pour certaines ONG qui ne financent pas les lacunes en termes d'appui institutionnel pour organisationnel. Parce qu'il y a de ces organisations qui veulent avoir d'abord un appui institutionnel ou organisationnel, mais les ONG qui financent ne veulent pas financer. Merci.
Merci, Alain Poutou.
Que le bailleur de compte qui ne finance pas l'appui institutionnel.
Donc, en termes de matériel.
Oui, oui, justement. Il faut d'abord vérifier est-ce que dans les plans de travail annuel de ces bailleurs de fonds-là, est-ce que le bailleur a prévu un appui institutionnel. Comme je vous ai dit, le problème est qu'il ne faut pas rédiger un projet pour le plaisir de le rédiger. Vous devez d'abord connaître qu'est-ce que le bailleur des fonds a prévu dans son plan de travail annuel. Ce ne sont pas tous les bailleurs des fonds qui financent l'appui institutionnel. Ça dépend d'un bailleur à un autre. Donc, il faut d'abord analyser le plan de travail annuel du bailleur des fonds. Alors, par là, vous saurez est-ce qu'il a prévu l'appui institutionnel. Soit ici, le bailleur des fonds n'a pas prévu l'appui institutionnel, vous pouvez rédiger un autre projet. Mais maintenant, dans les financements que vous allez recevoir du bailleur des fonds, vous allez voir comment gérer ça, n'est-ce pas, pour arranger aussi votre bureau, parce qu'il y aura des réunions que vous allez tenir, il y aura des missions de suivi évaluation, mais vous n'allez pas faire ça sous l'arbre. Donc là aussi, ça
c'est
votre organisation maintenant. Oui. Et aussi, les contributions des membres, parce que vraiment, le bailleur a du mal à comprendre ça. Vous dites que vous êtes une ONG, vous n'avez pas un bureau.
Comment
vous
n'avez pas un siège, voilà. Rien du tout.
Même l'Assemblée générale, là, ça se tient où le bailleur a du mal à comprendre. Donc, il risque de vous soupçonner que vous êtes en train de juste chercher de l'argent pour votre propre compte. Et nous, on le voit maintenant, même avec certains promoteurs des ONGB. Ils reçoivent le financement, mais ils prennent le même financement reçu. Il va aller acheter son terrain, il construit.
Il va acheter une belle voiture.
Ça ne va pas. Donc, le bailleur des fonds élabore le plan de travail, mais c'est pour d'abord structurer son intervention. Deuxième politique des bailleurs des fonds, c'est que l'identification des partenaires locaux. Vous voyez, après que le bailleur des fonds ait élaboré son plan de travail annuel, le bailleur des fonds identifie des partenaires locaux. Alors, dans les partenaires locaux ici, nous avons les ONGB de la société civile. Et nous avons aussi des partenaires étatiques. Les cas de l'UNICEF, par exemple, nous avons l'EPSP. On a le ministère de la Jeunesse, on a les maisons communales. Par exemple, UNICEF qui fait l'identification des enfants à l'état civil. Alors, qu'est-ce qu'UNICEF doit faire? UNICEF doit appuyer les bureaux communaux avec un appui institutionnel, c'est-à-dire des ordinateurs, la formation, tout ce qu'il faut pour l'identification de ces enfants-là.
Alors, l'enregistrement des enfants,
il faut des registres. Alors, ça, vous allez vous rendre compte que les maisons communales maintenant de la ville, par exemple, de Kinshasa, sont les partenaires locaux, mais les partenaires étatiques du bailleur des fonds.
Okay.
Alors, après avoir identifié les partenaires étatiques, troisième étape, c'est que les bailleurs des fonds doivent faire connaître son plan de travail annuel à ses partenaires locaux. Vous allez voir, même quand vous passez souvent dans les salles de conférence, il y a des ateliers qu'on appelle l'atelier de validation du plan de travail annuel. Parce que normalement, ce plan de travail annuel-là a été élaboré selon la philosophie du bailleur des fonds. Mais il faudrait maintenant que les bailleurs des fonds essayent de s'asseoir avec les partenaires locaux pour qu'on puisse adapter ce plan de travail annuel par rapport, n'est-ce pas, à la réalité du terrain. Alors, après avoir fait cet atelier ici, on saura maintenant quelle structure qu'on peut financer. Parce que dans cet atelier-là de validation du plan de travail annuel, on laisse quand même le libre débat à chaque membre de l'ONGD présent dans cet atelier. Voilà, il doit remonter que bon, nous, si nous, on prenait ce projet, voici comment nous allons l'exécuter.
Bien, là,
on va se défendre.
Un instant, Alain, on va accueillir Victor Osomba de Lumbashi. Bonjour, Victor.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ok, je vais vous poser une question, un peu ce qui va passer le jour là, je ne sais pas ce qui va passer le jour, mais j'ai une question de moi. Entre les bailleurs, les parents, les travailleurs, comment doit-elle, il y a plus de blagues vraiment, il y a plus de blagues, je ne comprends pas vraiment ce qui vous plaît bien pour moi.
Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Victor?
Oui, il est en train de dire que non, entre les bailleurs, les parents, les sœurs, je ne sais pas si il y a un problème de la vie, je ne suis pas vraiment très bien ce qu'il dit.
Donc, Victor ne comprend pas tout ce que vous dites. Alors, pouvez-vous aider Victor à comprendre, monsieur Alain?
Non, mais il faudrait peut-être qu'il suive attentivement et qu'il réformule sa question. Nous sommes en train de parler sur comment financer son projet. Il y a des ONGD qui sont créées il y a des années, mais ils n'arrivent pas à avoir un financement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le financement? C'est de ça qu'on est en train de parler. Je disais que, premièrement, d'abord, le bailleur de son, quand il arrive, il élabore un plan de travail annuel. C'est ce plan de travail annuel-là que le bailleur des fonds prévoit les différents projets qu'il va financer. Deuxième étape, j'avais dit qu'on doit identifier les partenaires locaux. Dans ces partenaires, nous avons les ONGD de la société civile et nous avons aussi des partenaires étatiques. Maintenant, troisièmement, il faut que les bailleurs de fonds puissent organiser un atelier de validation du plan de travail annuel.
Oui, le bailleur invite les ONG locaux,
les partenaires locaux à participer dans cet atelier-là. Il leur fait connaître d'abord le plan de travail annuel, il explique la mission, la logique de l'intervention. Maintenant, chaque membre de l'ONG qui a participé dans cet atelier doit maintenant défendre sa structure. C'est-à-dire, il choisit un projet et il explique comment est-ce que sa structure prévoit exécuter ce projet. Si vos arguments ne sont pas convaincants, on ne va pas vous donner les
éléments.
Parce que dès qu'on finit la validation du plan de travail annuel, on met déjà les noms des partenaires d'exécution sur la colonne là du P, qui est la colonne partenaire d'exécution. On met déjà les noms, par exemple, pour quel projet on dit FSP. Ça signifie quoi? Même quand vous venez avec votre projet après, on ne peut plus le financer parce que le partenaire d'exécution est déjà connu. Oui. Mais si, par exemple, vous estimez que vous avez un très bon projet, mais vous ne connaissez pas la philosophie du bailleur de fonds, cherchez maintenant les partenaires d'exécution que le bailleur a déjà choisi. Comme ça, vous allez faire la co-exécution avec...
Mais est-ce que les bailleurs de fonds font, par exemple, lancent des appels d'offres?
Oui.
ONG, par exemple, nous voulons intervenir dans tel secteur cette année, et puis un appel d'offres est lancé aux ONG, ça c'est tout.
Oui, monsieur le journaliste, vous savez, normalement, quand vous avez créé votre ONG, après l'avoir créé, vous avez élaboré les statuts, vous avez légalisé tous les documents qu'il faut, n'est-ce pas? Il faut chercher à vous faire enregistrer dans une plateforme. C'est ce que beaucoup des ONG ne comprennent pas. Parce que quand le bailleur de fonds doit organiser un atelier de validation de plan de travail annuel ou un renforcement des capacités, ce n'est pas qu'il va faire, il descend sur le terrain, il dit non, c'est celui qui a l'ONG, il arrive.
Non, il recouvre aux plateformes.
Il recouvre aux plateformes. Et les plateformes, maintenant, envoient les invitations à leurs membres.
Ok. Ogui Bendel, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, ici, je suis aussi votre invité.
On vous écoute.
Je suis allié pour les invités de la séquence de la paix que nous suivons en ce moment. Merci, Jolie, de m'avoir accordé la parole. J'ai bien suivi notre invité sur toutes les analyses que vous êtes en train de faire là, mais j'ai voulu lui poser la question parce que c'est lui qui est expert sur la matière. S'il puisse établir un peu la différence entre un bailleur de fonds et un partenaire. Voici ma question majeure que je voulais poser, M. Jolie. Je vous remercie.
La différence entre un bailleur de fonds et un partenaire, Alain Coutou.
Oui, le bailleur de fonds, c'est celui qui apporte le financement du projet. C'est-à-dire, c'est lui l'autorité qui donne le faveur pour que le projet soit exécuté. Il donne le financement et il donne aussi le faveur pour l'exécution et il suit les objectifs, n'est-ce pas, fixés par le projet. Mm-hmm. Mais tandis que les partenaires, même les bailleurs de fonds là pour vous, l'ONGD qui exécute le projet, les bailleurs de fonds aussi est votre partenaire. Mais il est qui? Il est partenaire d'appui financier. Si c'est le financement qu'il vous a donné.
Mm-hmm.
Si il vous a fait renforcement des capacités, vous appelez ce bailleur là partenaire d'appui technique. Donc, les bailleurs de fonds aussi vous appellent, vous, l'ONGD qui a reçu le financement, par partenaire d'exécution.
Okay.
Ouais, parce que c'est vous qui êtes en train d'exécuter ce projet qui vous a donné l'argent. Alors, nous disons que après avoir défini des partenaires, choisi des partenaires avec qui on va collaborer, les partenaires d'exécution, maintenant, les chargés des programmes de ces bailleurs de fonds-là remet à chaque partenaire, à chaque ONGD sélectionné, les canevas. Donc, vous ne pouvez pas élaborer d'abord un projet de vous-même sans connaître aussi les canevas du bailleur de fonds. Ouais. Donc, les bailleurs vous donnent un canevas. Les canevas, juste, ils vous disent, OK, le projet que vous devez élaborer doit suivre telle logique. Vous rentrez. Maintenant, une ONGD a visé qu'est-ce qu'elle doit faire et doit chercher un expert en élaboration des projets. Vous lui donnez les canevas que le bailleur de fonds vous a remis, que lui élabore pour vous. Il ne faut pas élaborer ça vous-même si vous ne comprenez pas comment est-ce qu'on élabore le projet. Lui, maintenant, il va élaborer ça. Et vous verrez que dans l'élaboration des projets, le projet a deux grandes parties. Et c'est ce qui intéresse les bailleurs de fonds. Il y a la partie technique. C'est une partie qui est focalisée plus sur les activités que vous allez mener, les objectifs, les indicateurs que vous promettez pour vérifier les résultats du projet.
Mm-hmm.
Alors, la deuxième partie du projet, c'est ce qu'on appelle la partie administrative, donc la partie du management. Cette partie-là, c'est une partie qui est focalisée plus où vous allez présenter l'organisation récurrente, c'est-à-dire cette ONGD qui est en train d'élaborer ou d'exécuter le projet, doit se faire connaître. Donc, il va expliquer au bailleur de fonds son historique, la dénomination,
l'organigramme
des différentes structures de cette ONGD, et aussi les secteurs d'intervention, même les rayons d'action.
Mm.
Parce que vous allez vous rendre compte aussi, c'est qui fait que beaucoup de projets ne sont pas financés. Pourquoi, monsieur le journaliste? Vous allez voir les noms, la dénomination de l'ONGD. Ça n'a aucun lien avec les titres du projet. Oui. Je donne un exemple. Une ONG qui élabore un projet qui introduit un bailleur de fonds, ça peut être Oxfam ou Conseil norvégien pour les réfugiés. Bon, dans votre projet, vous dites que vous voulez créer un centre pour l'encadrement des femmes vulnérables ou des femmes marginalisées. Mais dans la dénomination de votre ONGD, on ne sent pas les noms des femmes à l'intérieur. Donc, ça ne correspond pas. Donc, une ONG qui ne lutte pas contre le VIH-SIDA, elle introduit un projet sur le SIDA. On ne peut pas financer. Parce que quand on va lire les secteurs d'intervention, on va regarder les secteurs. On va maintenant dans les projets, on voit les objectifs spécifiques du projet. Donc il faut que les objectifs spécifiques du projet correspondent, n'est-ce pas?
Oui.
Correspondent au secteur d'intervention de l'ONG.
Bien. Comment obtenir le financement pour vos projets? Vous êtes responsable gestionnaire des ONG, c'est cette question vous intéresse. Appelez-nous pour participer au 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Capuil et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapuil.net.
Lambert Lossambé nous appelle de Kinshasa. Bonjour. Lambert, bonjour.
Oui. Allô?
Oui, bonjour Lambert, on vous écoute.
Allô?
Oh, oui, Lambert.
Oui, allô, je vous écoute.
Oui, quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste Malika, on est dérangé par ces enfants ici. J'ai quelques préoccupations à notre invité. Je voulais un peu commencer par cette question. Est-ce que c'est possible pour une ONG de présenter son projet, soit de demander un financement sur un bailleur qui n'a pas encore lancé un appel, un appel aux soumissions des projets?
Mm.
Ça, c'est un. Quel est le comportement, soit l'attitude de qui l'ONG nouvellement créée peut adopter lorsqu'elle est en train de chercher un financement des fonds en face des différents bailleurs? Ça, c'est les trois. Je voulais aussi demander comment se présentent les documents de demande de fonds aux bailleurs par les ONG, et quels sont les points qu'il faut beaucoup plus insister, puisque c'est un sujet qui nous intéresse. Nous sommes en train de monter juste une ONG, mais nous voulons commencer maintenant à soumettre ça. Est-ce que c'est possible et comment, quels sont les documents qu'on peut beaucoup plus identifier et puis comment ces derniers peuvent se présenter? Merci.
Bien, merci Lambert. Loussou, Louri, oh, ce nom là, c'est pas facile. Lourico, voilà, il est à Goma. Bonjour Loussou.
Oh, bonjour, monsieur Teddy. C'est Teddy Kilouki, à Goma, nord du
Sud. Sous le j'ai du mal à prononcer votre nom, là. On vous écoute, quelle est votre question?
Ok, j'aimerais poser la question à notre invité. Nous avons observé dans beaucoup des organisations locales actuellement, on peut concevoir des projets, mais on n'arrive pas à avoir de financement. Alors, j'aimerais que notre invité nous donne des stratégies qu'on peut utiliser pour avoir un financement facilement.
Mmh. Bien, vous avez une ONG dans quel domaine?
Oui, nous avons une ONG dans le domaine de l'environnement.
De l'environnement.
Oui, oui.
Bien. C'est une question de curiosité, hein. C'est un sujet qui existe depuis combien de temps?
Oui, nous existons depuis 2009.
2009. Alors, restez en ligne. Alain Poutou va vous répondre tout de suite.
Hein. Oui, pour M. Soulou, je commence par répondre à lui pour continuer, c'est Lambert.
Mm-hmm.
Oui, il dit que leur ONG est créée depuis 2009. Ils n'arrivent pas à avoir le financement. S'il a bien suivi ce que j'étais en train de dire ici. Les gens pensent que créer une ONG, cela vous donne, n'est-ce pas, la chance d'être financé tout de suite. Non. Il y a des préalables. Je disais qu'il faut d'abord chercher, une fois que vous créez l'ONG, chercher à vous faire enregistrer d'abord dans une plateforme. Parce qu'il y a des réunions qu'on appelle des réunions de clusters. que les bailleurs de fonds organisent. N'est-ce pas? Je crois que là, c'est. Et ils sont sur l'environnement. Il y a classe sur l'environnement, il y a classe sur.
Classe sur santé.
Oui, santé, protection de l'enfant, classe sur éducation. Maintenant, dans ces différentes réunions des classes, où le bailleur de fonds essaye un peu d'exposer les opportunités de financement qu'ils ont. Alors, quand vous n'assistez pas dans des réunions des classes, vous ne serez même pas informé des procédures d'obtention de financement. Vous voyez? Alors, certains bailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Elle a compris que beaucoup de gens ne savent pas bien élaborer le projet. Et même maintenant, organise, comme je vous ai dit, des appuis techniques pour former d'abord les ONG des membres sur l'élaboration du projet. Comment bien présenter le projet pour que le projet ne soit pas rejeté. Parce que vous pouvez même bien, disons, vous pouvez rédiger votre projet, vous l'introduisez sur le bailleur de fonds. Mais quand on analyse, on trouve que c'est un projet qui n'est pas bien formulé. À moins que vous tombez chez quelqu'un qui est de bonne foi, il voit que le projet est mal élaboré, mais l'idée est bonne. Bon, lui, il peut prendre peut-être. Il arrange pour certains, par exemple, qui se laissent dans les opérations retour à l'expéditeur, c'est-à-dire il arrange des choses bien, bien, bien pour vous. Il vous les retourne et vous vous imprimez, vous venez déposer et le projet passe. Mais
quand vous aurez le financement, vous donnez.
C'est comme quand vous êtes allé dans un cabinet de consultants pour qu'ils aient d'abord le projet pour vous, vous devez payer. Donc il faut d'abord dire aux éditeurs que quand vous avez une ONG, la première démarche à entreprendre après les documents juridiques, c'est de vous faire enregistrer, n'est-ce pas, dans une plateforme des ONG. Et si votre ONG s'occupe de la protection
de
l'environnement ou de l'enfant, vous allez, même s'il y a la MONUSCO, il y a la section protection des affaires civiles, faites-vous enregistrer. Parce que les bailleurs de fonds, avant de vous financer, ils doivent s'assurer que vous avez déjà d'autres partenaires, même s'ils ne vous ont pas financé, mais depuis que techniquement, vous êtes assisté par ces partenaires-là. Alors, l'autre qui a posé la question, une ONG qui vient d'être créée, qu'est-ce qu'elle doit faire, n'est-ce pas, pour avoir un financement? Non, moi j'ai toujours conseillé à de telles ONG de ne pas demander tout de suite d'abord le financement. C'est un effort, vous voyez même actuellement dans les statuts des ONG, on demande plus aux ONG d'avoir aussi les AGR, les activités génératrices de revenus. Comment l'ONG peut s'auto-financer d'abord elle-même? Vous voyez? Alors, mais beaucoup de gens quand ils disent environnement, santé, mais quels sont les autres secteurs que vous avez insérés dans votre statut qui peuvent vous permettre de générer des recettes? Vous voyez? Parce que quand le financement s'arrête, l'autonomie maintenant du projet, vous devez le faire commencer par rapport à vos propres activités génératrices de revenus. Et, c'est-à-dire, les ONG doivent aussi, à un certain niveau, apprendre à corriger les statuts. Plus les années sont en train de passer, vous devez aussi retoucher les statuts. Et aussi, il faut correspondre les statuts par rapport à la réalité de la zone où vous êtes en train d'intervenir. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des statuts là depuis que l'ONG est créée 4 ans. Même statut, on ne modifie pas, on n'observe pas aussi les différentes opportunités. Vous voyez? Donc, il faut modifier les statuts. Mais au début, éviter de demander des financements dès la première ou les deux premières années de création. Chercher des activités génératrices de revenus, assister dans des réunions des classes chez les bailleurs de fonds. C'est par là que vous allez découvrir, n'est-ce pas, les différentes opportunités. Et voyez aussi vos domaines d'intervention. Est-ce que ça correspond? C'est dans les priorités du bailleur de fonds. Le projet peut être bon, mais il n'est pas dans les priorités. Donc, pour le moment, le bailleur a trouvé que en ce moment ici, je ne peux pas financer un tel projet. Donc, vous allez voir, adapter, n'est-ce pas, les projets par rapport aux priorités du bailleur de fonds. Alors, en ce qui concerne aussi les documents, parce que
il est revenu également sur le projet, les différents points à insérer dans le projet des demandes de financement. Ça peut peut-être faire l'objet de notre émission prochainement. On pourra y revenir pour savoir comment bien rédiger un projet selon les critères. Mais on retient tout simplement aujourd'hui, M. Alain, que pour avoir le financement, vous avez dit d'abord, il faut connaître le plan
du travail du bailleur de fonds. Et ces plans-là doivent correspondre aussi à vos secteurs d'intervention que vous avez prévus dans les statuts.
Mm-hmm.
Et de deux, les titres de votre les projets que vous voulez introduire chez le bailleur doit avoir une relation, un lien avec la dénomination de votre ONGD. Mmh. Et troisièmement,
faire partie d'une plateforme des ONG.
Une plateforme aussi des ONG.
Prendre part aux réunions
des clusters et vos secteurs d'intervention, n'est-ce pas, doivent correspondre aussi aux différentes sections plutôt des bailleurs de fonds.
Mmh.
Et aussi les rayons d'action. là où les bailleurs de fonds a prévu ces interventions, vous devez aussi être présent là-bas, c'est important. Et pour cette raison-là, vous pouvez avoir votre bureau ici à Kinshasa, mais faites un effort d'avoir des représentations partout où il y a des bailleurs. Par exemple ici, c'est l'administration, mais la plupart des interventions des bailleurs de fonds sont là où il y a, dans la zone rouge. Alors vous devez avoir aussi vos bureaux de représentation là-bas. Donc les projets que vous devez soumissionner sur les bailleurs ne doivent pas être exécutés ici. Doivent être exécutés là où il y a les problèmes, à risque, là où les bailleurs interviennent. Et il faut aussi vous rassurer que vous avez tous les documents. Même quand vous écrivez aux bailleurs de fonds juste pour les partenariats, ne demandez pas encore tout l'argent d'abord. Demandez juste d'être partenaire. Nous avons au TIA ici. Faites aussi un effort que votre ONG soit enregistrée aussi dans la base de données de la coordination humanitaire des ONG. C'est important parce qu'ils vont aussi vérifier réellement si vous êtes humanitaire. Parce que quand vous introduisez la demande à OCHA, OCHA va regarder, non, cette ONG n'est pas humanitaire, peut-être c'est juste commercial, mais on fait semblant de... Prenons le cas d'une boutique ou d'une pharmacie. Quand vous passez ici en ville, vous verrez une pharmacie qui est une ONG. C'est une pharmacie, c'est pour un individu. Vous allez voir une boutique, vous allez voir une alimentation, on écrit ONG. Est-ce que vous êtes sûr que les bailleurs de fonds peuvent financer une telle ONGD? Donc il faut bien voir. Vous allez par exemple chez un juriste. Lui, il connaît l'élaboration des statuts sur le plan juridique. Mais sur les plans de développement, sur les plans le plan humanitaire, lui n'a pas appris ça. Je donne un exemple. Nous avons créé une ONG pour la communication. Je pense pas que c'est important que moi j'aille chercher un juriste pour élaborer les statuts. Moi, je dois venir chez vous qui est un expert en communication. Vous allez par exemple m'aider comment adapter, n'est-ce pas, le secteur d'intervention, les objectifs à mettre dans les statuts par rapport à nos bénéficiaires. Vous comprenez un peu. Vous luttez, vous protégez les enfants, mais vous rédigez des projets pour les femmes. Donc, ça va en contradiction. Donc, il faut vraiment tous ces
certaines
logiques. Oui. Et tous les documents que vous avez, hein, il faut bien les mettre en place. Et évitez aussi, si vous êtes promoteur d'une ONG, d'ouvrir un compte bancaire à votre nom. Non. Il faut que ça soit au nom de la structure. Et ne soyez pas les seuls signataires. Ça aussi, ça ne donne pas mal à l'assurance au bailleur de fonds. Il faut deux ou trois signatures. Là, ça rassure au bailleur de fonds. Il sait que vous êtes organisé. Et aussi, il faut la permanence.
Il y a des ONG.
Il y a des ONG quand vous passez là. Il n'y a personne. Ils sont pas là.
Ils sont là seulement
pour qu'il y ait l'argent. Même quand vous entrez au bureau, vous voyez, il n'y a même pas l'ordre là sur la gestion des courriers. Hein. Des choses ne sont pas vraiment en place. Et je vais donner le cas du PNUD, monsieur le journaliste. Au PNUD, par exemple, pour financer une ONG, ils ont leurs auditeurs, hein, leurs experts, ils envoient sur le terrain pour faire ce qu'on appelle l'audit de viabilité de l'ONG. On vient d'abord, il y a des critères pour dire que cette ONG est viable ou elle n'est pas viable. Maintenant, si vous ne mettez pas dans les critères, peu importe les Français que vous pouvez formuler dans le document, on ne finance pas. Donc, c'est le rapport de ces experts-là, de viabilité, qui doit dire, ok, d'accord, cette ONG est viable, elle peut maintenant collaborer avec PNUD ou elle a la capacité d'absorber les fonds du PNUD.
Bien, merci Alain Poutou, expert en planification stratégique et ressources humaines. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des financements des projets des ONG. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement pour continuer cet échange. À la prochaine.
Merci.